Vous êtes sur Studio ZEF et c'est l'heure de Feuilles Vives, votre émission de reportage entre ville et campagne. Sixième feuille vive avec la suite de notre mois d'août sous le signe des festivals ruraux. Dans notre émission précédente, nous parcourions la vallée de la Cisse avec le festival H2O qui s'est tenu au printemps dernier. Aujourd'hui, c'est au tour du festival Va jouer dehors de faire la une de Feuilles Vives, un festival itinérant de musique classique qui se déroule tout au long de la deuxième quinzaine d'août dans le sud du Blésois. Parfois, Tours souvent, voire Paris, l'amateur de musique classique qui habite la campagne loiret-chérienne doit avaler des kilomètres pour assouvir sa passion ou bien se contenter de la radio. Plus encore que tout autre domaine, en France, la culture et la musique savante en particulier sont l'apanage des grandes villes. Les festivals comme H2O et Va jouer dehors se réclament d'un autre modèle. D'abord, ils rendent des formes de culture traditionnellement urbaines accessibles en milieu rural. Ensuite, ils sont itinérants. Si tu ne peux pas venir à la culture viendra à toi. En se déplaçant, ils font découvrir à leur public l'environnement patrimonial et naturel de leur territoire. 15 août dernier, lancement de Va jouer dehors au château de Conon à Cellettes. Une enceinte vieille de 500 ans contourne un parc immense et une maison de plusieurs siècles saccadette. Maintes fois reconvertie et restaurée, la modeste bicoque fait la fierté de son propriétaire, Hubert de Malartic.
C'était le siège de la justice d'ici, c'est-à-dire c'était l'endroit où... C'était un lieu de recueil et de refuge pour une époque où... Les gens de l'extérieur étaient soumis quelquefois à des bandes qui passaient, pas des guerres, c'est pas vraiment un château fort, mais quand il y avait un peu d'insécurité, les gens venaient à Conon. Et en plus, il y avait donc le lieu de justice, c'était c'est une des plus vieilles seigneuries d'ici, hein, à l'origine. D'accord. Vous savez, d'ailleurs, les murs là, qui sont classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont du XVIe siècle. Et on mentionne Conon, la maison, qui était très transformée, depuis 1200 et quelques. Les endroits les plus remarquables, c'est l'enceinte. C'est l'enceinte qui fait. Oh, elle fait plus d'un kilomètre. Hein. Bon, alors il n'en reste pas. Il y a des endroits où c'est cassé. Vous voyez que là, sortant de la tour, là, le mur, ben, il n'est plus là. Et puis la maison elle-même a été très remaniée, très. Il ne reste plus grand-chose. On n'a pas de dessin de la maison d'autrefois. En fait, elle a été, au XVIIe siècle, rachetée par le propriétaire de Bourgard, qui, lui, avait beaucoup d'argent, alors qu'ici, ils étaient fauchés. Et ils l'ont achetée avec les droits qui allaient avec, les droits de justice, les droits de seigneurie. Ce qui fait qu'ils n'ont eu qu'une envie pendant 300 ans, c'est qu'on oublie Conon pour ne penser qu'à Bourgard. Bon. Alors, du coup, ça a été transformé en ferme, en petite chose, ça tombait. Et puis en 1905 à peu près, il y a quelqu'un qui l'a racheté pour se faire une petite propriété à la porte de la Sologne, propriété de vacances, puis d'y résider. Et puis ça a duré jusque dans les années 75, et puis pas si loin.
Et bon, on dit qu'il y a 19 châteaux à Cellettes. Comment est-ce qu'on explique cette densité dans cette commune-là?
Oh bah c'est simple, c'est la cour de Blois. Le gouvernement de la France a été à Blois pendant des dizaines et des dizaines d'années. Eh ben, tous les fonctionnaires, les gens de la cour, dans le quartier de Paris, près du gouvernement, il y a beaucoup de maisons habitées par des fonctionnaires. Ben, ça, c'était ça.
C'est l'ensemble baroque Nevermind qui ouvre cette deuxième édition de Va jouer dehors. Les quatre jeunes musiciens habitués des plus grandes salles d'Europe jouent en plein air, à Cellettes, devant 200 personnes. De l'importance de sortir de sa zone de confort par la flûtiste Anna Besson et le claveciniste Jean Rondeau.
On est plutôt dans une politique de renouveler les publics. Et je pense que si l'artiste lui-même ne le fait pas, ça ne se fera pas tout simplement. C'est important de... Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici qui n'ont pas forcément accès à la musique ou en tout cas qui ne connaissent pas trop la musique, on va dire en gros classique. J'inclus évidemment baroque et dérivé, mais c'est plutôt très agréable de se dire qu'on peut peut-être faire découvrir cette musique-là à ces gens qui vont peut-être aller voir d'autres concerts ensuite dans des salles dédiées à ça et que ce soit un point de départ pour eux, quoi. C'est aussi notre rôle de sortir un peu de ce qu'on sait faire et de là où on est en général demandé.
C'est vrai que ça fait partie de nos objectifs d'essayer de toucher un public un peu moins connaisseur. Nous essayons de temps en temps de faire quelques actions, parfois pédagogiques, donc en donnant des cours, ça peut être des masterclass dans des écoles de musique, mais même aussi pour les enfants. Sinon, nous avons fait quelques interventions à droite à gauche, notamment nous avons joué en prison, enfin, dans une maison d'arrêt plus précisément, ou dans une maison de retraite, ou dans des écoles et tout ça. On a toujours beaucoup d'émotions et de plaisir à sortir un peu de la salle de concert traditionnelle pour aller toucher des publics qui ont moins la possibilité. Notamment, par exemple, l'exemple de la maison d'arrêt est vraiment flagrant. Même si c'était pas facile, c'était assez émouvant de se dire que si on rentre pas dans la prison, la musique n'y rentre pas et ça nous plaît, quoi.
Mais on entend beaucoup dire qu'on joue une musique élitiste, ou en tout cas qui est accessible à une certaine. On est évidemment qu'on fonctionne plus trop en caste, mais il y a quand même une certaine population qui va au concert, comme on le voit beaucoup par exemple à l'Opéra à Paris, parce que c'est dans leur culture, c'est la tradition d'aller au concert, etc. Il y a aussi un côté j'y vais parce qu'il faut qu'on me voie, qui a un peu resté des époques précédentes. Et alors, ce qui nous a marqué, en tout cas, je vais peut-être parler en mon nom plutôt pour l'instant, mais c'est des jeunes qui me diront « Ah ouais, c'est chouette, tu fais de la musique classique là, mais c'est pas pour moi ça. » Et donc quand on demande pourquoi, mais parce que les gens sont bien habillés, etc. Et c'est fou en fait, l'image qu'on a de ça. Il faut aller au concert bien habillé, il faut aller au concert dans une grande salle, dans une salle. On ne peut pas aller comme on est dans la vie de tous les jours, alors que c'est absolument pas le cas. C'est évidemment une espèce de code vestimentaire, mais qui a été installé là depuis tellement longtemps, et c'est à nous de un peu casser ça aussi.
En fait, voilà, comme disait Anna au début, c'est si on s'implique pas et on se responsabilise pas pour essayer de démocratiser un peu la musique et simplement la donner un peu à tout le monde et pas juste la réserver à certaines personnes, voilà. Mais en tout cas, c'est une question d'éducation en fait aussi. Parce que si on ne dit pas aux gens quelle est la réalité, c'est-à-dire par exemple que la musique classique c'est pas cher à aller écouter, que c'est pour tout le monde, qu'on peut prendre du plaisir. Voilà, nous on est jeunes, on a découvert la musique chacun à sa manière, mais en partant aussi de son exemple, on se dit que ça peut être le cas pour tout le monde.
Alors, Téléman a écrit pour nous une musique qui nous intéresse particulièrement, puisqu'il a écrit spécialement pour nos instruments, la flûte, le violon, la viole de gamme et la basse continue, qui est ici représentée par le clavecin. La basse continue, c'est une technique d'harmonisation qui ressemble à celle pratiquée dans le jazz ou dans plein d'autres styles de musique. Et c'est la technique d'harmonisation, c'est-à-dire d'habiller la mélodie, d'habiller le chant. Et c'est la technique qu'on plébiscitait à l'époque baroque, pour faire simple, de 1600 à 1750. Voilà. Téléman a écrit pour nos instruments une musique en quatuor qui s'apparente à de la conversation où chacun se répond, comme vous avez pu l'entendre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ça, c'est la viole de gambe. Je ne sais pas si tout le monde connaît la viole de gambe, si ? Maramaré à gauche, Maramaré une fois, Maramaré deux fois, Maramaré trois fois, oui, mais c'est en effet l'instrument de Maramaré. C'est un instrument qui apparaît en fait au sud de l'Europe à la fin du 15e siècle et qui se répand un peu partout jusqu'au 18e, un peu partout en Europe, et qui disparaît ensuite pour d'obscures raisons. Ensuite, nous avons le clavecin. Tu veux nous dire un petit mot sur le clavecin, Jean ?
Le clavecin, qui connaît le clavecin ? Ah, il y a un jeune homme au fond qui connaît. Un petit mot rapidement. Le clavecin, c'est très très différent d'un instrument qu'on connaît bien qui est le piano, puisque les cordes sont pincées. Donc ça va être plutôt de la même famille que tous les instruments à cordes pincées, à savoir la guitare, le luth, la harpe, etc. Voilà. Donc ça reste un instrument à clavier, mais à cordes pincées, les cordes étant pincées par des petits becs. Si vous êtes curieux, vous pourrez peut-être venir jeter un œil après le concert. Voilà. Violon, on connaît le violon.
Non, mais alors, ce qu'on peut préciser quand même pour Louis Créache, qui est un peu timide. Non, c'est pour rire. Non, ce qu'on peut simplement préciser, c'est que contrairement au violon que peut-être vous connaissez, Louis ne joue pas sur un violon avec des cordes en métal. Il joue sur un violon avec des cordes en boyau. Pourquoi ? Parce que nous, on essaye de retrouver un peu le son qui était celui qu'on pouvait entendre au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, les musiciens jouaient sur des cordes en boyau. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Et l'archet aussi est un peu différent. C'est des choses qui ont beaucoup évolué. Et Anna qui est moins timide que Louis.
Alors moi, je joue la flûte traversière baroque, qu'on appelle aussi le traverso, qui est le terme italien, mais en fait, c'est vraiment une flûte traversière. C'est l'ancêtre de la flûte traversière moderne, que vous connaissez sans doute mieux, qui est celle tout simplement en métal, qu'on peut trouver en argent, en or, etc., avec plein de clés. Et ça, c'est vraiment la flûte de l'époque de Bach. Donc c'est juste 6 trous et une clé.
Pour poursuivre ce concert, nous allons traverser le Rhin, nous allons traverser l'Allemagne et revenir en France. Nous allons vous présenter une pièce qui s'appelle la Piémontoise. Donc on va en France, mais on est un peu en Italie à la fois. Une pièce de François Couperin, qui était un compositeur qui travaillait pour Louis XIV et qui a écrit 4 nations pour trio, c'est-à-dire 2 parties de dessus et basse continue. Jean et moi faisons la basse continue, la fameuse technique d'harmonisation, etc., etc., etc. On s'en fiche. C'est une pièce qui se compose en fait d'un premier mouvement de sonate avec plusieurs mouvements à l'intérieur, mais en un seul G, si je puis dire, et qui ensuite sera suivi de danse. Une allemande, une courante, une seconde courante, une sarabande, un rondo et une gigue.
Les gens se disent, ah, il s'appelle Nevermind, ils vont jouer du Bach, ça va être rock'n'roll, il va y avoir les cheveux qui vont partir à droite à gauche. Et finalement, on essaye de jouer Bach avec la même rigueur que. Enfin, la rigueur qui est adoptée habituellement quand on joue Bach. Donc, dans nos spectacles, on essaye de garder une forme de d'engagement sincère vis-à-vis de la musique. Je pense que c'est d'abord ça qui nous motive.
Mais avec les interludes un petit peu explicatifs, avec la possibilité d'aller voir les instruments à la fin, est-ce que c'est quelque chose qui se fait couramment dans des concerts de musique classique ?
Je pense que ça se fait vraiment de plus en plus. On ne va pas dire que nous sommes les précurseurs d'un nouveau mouvement ou quoi que ce soit, ou que ça n'a jamais été fait avant, c'est pas vrai du tout. Je pense que les gens ont vraiment conscience de ça, qu'il faut ramener un public différent en tout cas et le s'ouvrir si on veut renouveler ce public. Donc je crois que ça se fait de plus en plus. Évidemment, il y a des gens qui restent encore et toujours dans cette idée de l'artiste au-dessus de tout, qui vient juste jouer, qui reste un peu dans son monde à lui, qui ne s'ouvre pas, et puis c'est ça qui crée son génie, etc. Qui ne descend pas en fait un peu de son piédestal, mais je crois quand même la tendance actuelle est à l'ouverture et justement à ça, à s'exprimer pour essayer d'amener avec nous ce public et lui faire comprendre que lui aussi peut participer et également se mettre à la musique s'il n'avait pas eu l'idée de ça le lendemain, quoi.
Le surlendemain, le duo Ginkgo investit un jardin privé de Chitney constellé d'hortensias pour un spectacle où des pièces d'époque variées sont habillées de textes de Saint-Exupéry. Pour la flûtiste Ludivine Moreau et la harpiste Lucie Berthomier, mélanger les répertoires musicaux et les genres artistiques, c'est rendre la musique classique plus accessible et plus vivante.
On a un peu envie de casser l'image, on va dire, habituelle du duo flûte et harpe, qui n'est pas mauvaise hein, au départ, hein, y a pas de souci, c'est juste qu'on avait envie, comme dit Lucie, très justement, c'est d'élargir vraiment ce répertoire. Donc vraiment ce qui nous a donné envie d'un projet, c'était d'arriver à ouvrir les portes à des répertoires totalement inhabituels, on va dire, pour cette formation. Et c'est ça qui nous donne envie vraiment de faire des spectacles, des petits voyages autour d'ambiances, de sujets différents, voilà.
Oui, j'avais lu que vous aviez un répertoire varié, qu'aller chercher un peu dans tous les genres de musique savante, dans le jazz, dans la musique traditionnelle, avec des compositions originales aussi.
Oui.
C'est quoi l'objectif derrière ça ?
C'est montrer que finalement, on peut tout à fait, avec nos instruments qui sont classiques, entre guillemets, on peut jouer des musiques qui sont peut-être plus écoutées facilement par tout le monde.
C'est aussi le but, c'est de croiser un petit peu toutes ces musiques-là et de montrer aussi les liens qui existent entre ces musiques.
Oui, oui.
C'est-à-dire que du coup, c'est pas de faire de la musique classique ou alors de la musique même baroque ou alors de la musique contemporaine. Non, le but, c'est aussi d'arriver à unifier tout ça. Et par exemple, dans notre programme de ce soir, il y a quand même un fil conducteur qui n'est pas que le voyage, il y a aussi tout ce qui est au niveau de la virtuosité et où on va retrouver des gestes virtuoses en fait dans toutes les pièces. Que ce soit de la musique dite traditionnelle avec les airs de Bartok ou alors des musiques plus contemporaines de Philippe Purel notamment, il y a quand même cette volonté-là, on va dire.
D'accord, de montrer un petit peu la parenté entre...
Entre toutes ces musiques-là.
Oui, et de plus en plus, je pense, contrairement aux années passées, je pense aux décennies passées, maintenant, on est touche à tout. Alors qu'avant... on était d'une certaine manière un peu obligé de choisir. C'est, on veut faire de la musique baroque, bon ben voilà, il faut un peu quitter, on va dire par exemple pour la flûte, on quitte la flûte traversière et on se lance vraiment dans du traverso, on fait des études de traverso, on peut toujours faire ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus simple, c'est mieux accepté, et on peut vraiment se lancer dans, ok d'accord, j'ai fait de la musique classique, de la flûte traversière classique, mais tiens, j'ai envie de faire du traverso, je peux. Donc ça, c'est super chouette de pouvoir le montrer aussi.
D'accord.
À tout le monde.
Même au niveau des institutions, il y a cette...
Cette ouverture, vraiment.
Et est-ce que jouer dans des cadres un petit peu insolites, originaux, ça fait partie de cette démarche-là aussi ?
Absolument. Absolument, parce que, comme disait Ludivine, on est tout à fait transportable.
On est tout terrain.
Tout terrain. Voilà, l'harpe peut être jouée en extérieur, la flûte aussi, en intérieur également, dans des grandes salles, des petites salles. Tout est adaptable, mais même, je pense que pour tous les instruments, c'est comme ça. Mais nous, on a vraiment cette volonté-là aussi d'aller... dans différents lieux, et même pour nous c'est un certain challenge en fait, en tant qu'artiste, d'aller jouer dans des lieux où on n'a pas forcément l'habitude d'aller, et même pour nous c'est très intéressant. On a un peu l'habitude de l'extérieur et c'est pas du tout les mêmes résonances, donc on peut pas forcément jouer de la même façon une pièce, on est obligé d'interpréter différemment en fonction du lieu.
Et puis des choses toutes bêtes comme un coup de vent, etc. bon voilà, il faut penser aux pinces à linge pour nos partitions, et puis nous pour les instruments avant, avoir du vent qui vient sur notre instrument, c'est pas facile non plus, enfin voilà, c'est...
Voilà, c'est des adaptations en fait.
Exactement,
vraiment.
Mais bon, ça se fait quoi.
Ok, je pose le problème. Celle d'après
Pareil, ça marche. Que je peux faire à droite.
Je la mets pour moi.
Je la plus m'entraîne.
C'est l'après, moi je peux tourner. Est-ce que toi tu peux tourner comme ça? Ça change, tu peux en rajouter.
Tu peux tenir un peu en haut. Voilà.
Sinon, si par... j'ai oublié de tenir pour longtemps.
Là, je suis sol. Ré, si, ré,
sol. Sol, ré, si, ré, sol. Ré, si, ré, sol. Ré, si.
Là, c'est que je suis en bouquin, je cache. C'est vite. Bon, au pire, on se débrouillera si après.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
Voilà. Après la tournée.
De toute manière, je pense qu'on est obligé de s'adapter aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus vivre comme avant de la musique de chambre. On ne peut plus dire voilà, on vous propose un concert de musique de chambre. Je parlais pour nous, pour notre formation, duo flûte et harpe. Voilà, on vous propose ça, on fait une heure de musique, il y aura ça, ça, ça. Est-ce que vous voulez bien nous prendre ? Alors, si on est des stars internationales, ça peut prendre. Et encore, mais je pense que maintenant, il y a dans tous les arts, il y a besoin de mélanger tous ces mondes-là pour arriver à présenter un projet qui finalement va amener un public vachement plus vaste.
Et le public change.
Voilà.
Ça, je pense que c'est une réalité aussi. C'est une grande réalité, c'est que le public n'est plus le même. Et puis, il faut aller aussi chercher le public. public, il vient pas forcément tout seul. Donc c'est aussi notre façon à nous de... Bah, par le festival, par exemple, va jouer dehors, et puis par d'autres festivals où on a pu jouer, c'était vraiment la volonté d'aller voir un public nouveau, mais c'est aussi de ensuite les amener à peut-être aller voir d'autres concerts. Et c'est, y a dans l'idée de démocratisation dont on parlait tout à l'heure, il y a vraiment ça. Il y a l'idée de pouvoir commencer sur un premier concert de classique, une possible révélation. Ça, on peut pas le... Enfin, ça, on peut malheureusement pas forcément y faire quelque chose, mais si c'est une révélation, ça leur permet aussi d'aller voir ensuite d'autres concerts. Et ça, c'est gagné pour nous, quoi.
Dans n'importe quel endroit où on va jouer, si on arrive à toucher, je vais prendre l'exemple des enfants, s'il y a des enfants qui soudain ils vont être ça va les inspirer complètement, on peut leur montrer aussi que on peut tout à fait se mettre à faire de la musique. S'ils veulent en faire leur métier, ils peuvent, que c'est quelque chose qui fonctionne, qu'on peut
faire une communication.
Voilà, en fait, possible. En fait, il va toujours se passer, il y aura toujours du contact avec le public, et nous c'est ça en fait. Pour nous, je pense le sens premier de ce métier, c'est ça, c'est le contact avec le public. Quoi,
ouais, c'est un moyen de communiquer. Nous, c'est celui qu'on a trouvé. Et oui. Il y a d'ailleurs les textes aussi, mais c'est quand même avant tout la musique. Et ouais, moi, pour ma mission, si je l'accepte, c'est d'essayer que tous puissent pratiquer d'une certaine manière, même si ça peut être une pratique de l'écoute. Hein, c'est pas forcément une pratique de l'instrument.
Oui, non, voilà.
Mais c'est déjà avoir cette ouverture-là, en fait, vers un moyen de communication. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être la parole, ça peut être beaucoup de choses. Hein.
Cette dune, toujours à sa place, ce fort espagnol, ce désert. Il manquait ce faible mouvement qui fait, même par temps calme, la richesse des prairies et de la mer. Les nomades, aux lentes caravanes, voyaient changer le grain du sable et, dans un décor vierge, le soir, dressaient leurs tentes. J'aurais pu ressentir cette immensité du désert au plus faible déplacement. Mais ce paysage immuable bornait la pensée comme une coupe au mou. À ce puits répondait un puits, 300 km plus loin. Le même puits, le même sable en apparence, et les plis du sol disposés d'eux-mêmes. Mais là-bas, c'était le tissu des choses qui était neuf, renouvelé, comme de seconde en seconde, la même écume sur la mer.
Devant la scène, pendant les répétitions, on croise une autre jeune musicienne, la clarinettiste Marie Vaquez, organisatrice du festival Va jouer dehors, qui tire son identité de son intégration dans le territoire. Utilisation du patrimoine, itinérance et collaboration avec les acteurs associatifs locaux sont, selon Marie, les clés de sa réussite.
L'idée de départ, en fait, c'était de revisiter la manière de faire de la musique classique. Ça partait d'un sentiment, en fait, de musicienne que j'étais encore jusqu'à l'année dernière. Et je ne me retrouvais pas, moi et les amis avec qui j'ai monté le projet, dont Perrine Guillemot, qui est altiste à l'Opéra de Lyon maintenant. En fait, on a beaucoup discuté du sens, de pourquoi on fait les choses, pour qui on joue, comment on le fait. Et on s'est dit qu'il y avait certainement une autre manière de faire que celle un peu institutionnelle, des salles de concert, de cet anonymat qu'on a avec le public, qui est loin, avec qui on ne partage pas grand-chose, si ce n'est le moment du concert. Et moi, étant originaire de cette région, enfin de ce territoire même très précisément, je voyais bien quand je disais aux gens « je fais de la musique classique », c'était pour eux très très éloigné de leur vie. Et donc à la base, l'idée, c'est de dire bah, « voilà, on va faire autrement, on va aller jouer chez les gens ». Et notamment dans des lieux qui leur sont beaucoup plus familiers que la salle de concert, qui véhicule un certain nombre de codes et qui du coup fait peur et éloigne les gens. Et voilà, la première étape, ça a été de chercher justement différents types de lieux où on allait pouvoir imaginer de la musique classique. Donc à la fois des lieux du patrimoine, parce qu'on est assez sensible, enfin on se dit que si en plus d'écouter de belles choses, on le fait dans un cadre... Qui est sympa, ça ne gâche pas notre plaisir. Et après, des lieux tout à fait hétéroclites, L'année dernière, il y a eu beaucoup de choses dans des fermes, par exemple, qui est un exemple vraiment parlant, parce que c'est un endroit qui est très loin, très très loin de l'univers de la musique classique et qu'on trouvait intéressant de rassembler. Nous, on a besoin notamment de lieux calmes, donc c'est pour ça que l'espace public, des fois, est compliqué et que finalement, on se rapatrie, que ce soit à Sélette et là à Chitney, on se rapatrie un peu chez des propriétaires privés qui, en plus, disposent d'un endroit fort sympathique que les gens, même du village, même les voisins, ne connaissent pas forcément parce que c'est des lieux privés et que du coup, on fait découvrir par la même occasion. Alors, l'itinérance, ça s'est fait, je pense que c'est le premier choix qu'on a fait, qui est un choix pas simple à assumer après, parce que logistiquement, ça nous rajoute énormément de travail, parce que tous les jours, on arrive dans des endroits vierges, il faut démonter, démonter. Par contre, je pense que déjà, c'était impossible de trouver un lieu qui résume tout. Toute la richesse de notre patrimoine, en étant itinérant, on peut un jour être au camping, le lendemain dans un château, le surlendemain en bord de Loire, et à la fin dans une ferme. On a quand même un bon portrait de toute la diversité de notre territoire. Et puis ça permet vraiment ce qu'on a vu, ce qu'on a vérifié, c'est que quand on va dans une commune, il y a beaucoup de gens de la commune qui viennent parce que c'est chez eux et qui n'iraient pas forcément deux communes à côté. Mais là, ils en ont entendu parler à la boulangerie, leur voisin a dit qu'il venait, et du coup, on est sur un périmètre qui doit faire quand même une trentaine de kilomètres entre Contes, Ronzin, Saint-Dié, tout ce triangle sud du Blaisois. Et du coup, les gens ont des toutes petites distances à faire pour venir au concert, alors que d'habitude, soit il faut aller à Blois, qui n'est quand même pas très loin, mais sinon ça serait plutôt à Tours, voire à Paris. Là, on a la chance d'accueillir des artistes qui ne se produisent que très rarement dans la région et qui sont plutôt abonnés à des grandes salles et à des grands festivals en France et à l'étranger. Voilà, ça c'est aussi la spécificité de ce festival, c'est que même si on est dans une ambiance champêtre, bucolique, très conviviale, là, les gens sont dans des transats, sur des bancs, assis par terre. Malgré tout, on conserve une programmation musicale de très grande qualité avec des artistes qui viennent, qui jouent plutôt d'habitude dans les hautes, dans le côté plus institutionnel de la musique et qui en même temps sont ravis de ce lien justement qu'ils arrivent à retrouver avec le public et qu'ils n'ont pas forcément d'habitude. C'est vrai qu'il y a eu il y a beaucoup d'échanges après les concerts, les gens n'ayant moins l'habitude des codes se permettent davantage d'aller vers eux, de regarder les instruments. On a eu du clavecin mardi, les gens n'avaient jamais vu, venez voir comment ça marchait. Là, je suis sûre que ce soir avec la harpe, on va avoir la même chose. Là, c'est assez spectaculaire de pouvoir voir ça. De voir ça ici. Enfin, moi, j'ai jamais vu de concert de harpe dans le Loir-et-Cher, donc je pense qu'il va y avoir la curiosité. On essaye de l'entretenir, quoi, que les gens osent se parler, que ce soit entre eux, parce que comme c'est beaucoup de gens du coin et beaucoup de touristes et qu'on est dans une ambiance bon enfant, l'idée c'est que la soirée s'arrête pas à la dernière note, c'est qu'après ça puisse continuer autour d'un verre. On travaille avec des producteurs et puis différentes structures, même associatives locales, et ça. Là, on essaye de, même si on reste sur un concert de musique classique, que ce soit un moment vraiment sympa à partager tous ensemble.
Et c'est déjà la fin de cette 6e émission de Feuilles Vives, mais pas de panique, Studio Zef sera en direct de la journée de clôture du festival Va Jouer Dehors. C'est le dimanche 27 août de 15 à 20h au Théâtre du Grand Orme à Fins. Une édition spéciale de Feuilles Vives autour des lieux de culture en milieu rural. L'occasion de découvrir ce théâtre du Grand Orme, pôle culturel en ébullition et siège de la célèbre compagnie du hasard. En fin de journée, réunion de trois moteurs de la culture en milieu rural, bien connus des auditeurs de Feuilles Vives. Isabelle Darrocha pour le festival H2O, Marie Vaquez pour le festival Va Jouer Dehors et Juliette Mantran pour la compagnie Jean et Faustin. Retrouvez ces émissions et toutes les informations concernant le direct de ce dimanche 27 août dans la rubrique Feuilles Vives du site studiozef.fr. A très bientôt!
Quelle belle vallée! Avec ses fermes et ses fermiers, avec ses graines et ses greniers.